Je vous invite à lire la parole de Dieu ce matin dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, verset 16. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est, en évangélisant, d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix, courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. Jusque-là, notre lecture de ce matin. L'apôtre Paul va dire dans ce texte, sur lequel nous allons nous pencher quelques instants, que annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est un privilège. C'est aussi un devoir. C'est une récompense, c'est une nécessité. L'Évangile, il va dire, cette bonne nouvelle, cette nouvelle de la mort de Jésus pour mes péchés, que Dieu donne un sens à ma vie, Dieu a révolutionné ma vie, Dieu m'a donné du bonheur, Dieu m'a donné une liberté nouvelle. Et le Seigneur nous dit et dit à Paul, cet Évangile-là, ce n'est pas pour que tu le gardes pour toi, tu n'es pas sauvé pour toi-même seulement. Car nul ne vit pour lui-même, mais nous sommes sauvés pour propager, pour apporter, pour transmettre cette bonne nouvelle. Il va donc dire cette nécessité, mais imposée, c'est le verset 16. C'est quelque chose qui lui est demandé, c'est imposé, veut dire posé sur moi. Il a comme une charge, une responsabilité qui lui est donnée. Il va même dire... Malheur à moi si je n'évangélise. Et le mot malheur, c'est le mot aïe, why. C'est le mot oulala, on pourrait le traduire comme ça. Attention, waouh, si je n'évangélise. Donc c'est vraiment important de pouvoir le faire. Il le voit comme un devoir, comme une récompense, comme un privilège. Parce que en lui, en nous, il y a ce feu intérieur. Il y a ce moteur intérieur, il y a cette poussée intérieure, ce drive intérieur qui me donne d'aller de l'avant et de partager partout, par toutes les occasions possibles, la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul aimerait nous dire, mes amis, ce n'est pas seulement parce que c'est un devoir, quelque chose que Dieu nous demande, c'est une, entre guillemets, une obligation spirituelle. C'est un mandat, c'est un devoir, c'est une mission. Mais avant tout, c'est la pression de l'amour, c'est l'amour de Dieu déversé dans le cœur de l'apôtre et dans nos cœurs aujourd'hui. C'est l'amour de Dieu qui me pousse en avant pour partager l'Évangile. Voyez-vous, Dieu ne nous demande jamais quelque chose où nous serons parfaitement incapables de le faire. Mais il nous donne toujours les moyens pour le faire. C'est pour ça qu'il verse d'abord l'amour de Dieu dans nos cœurs, pour que nous puissions, avec cet amour, à partir de cet amour, à partir de ce qu'il a mis en nous, nous pouvons le partager. Tu n'as pas besoin de partager lorsque tu n'as zéro ressource. Mais Dieu nous dit, je te donne à disposition toutes mes ressources et le Saint-Esprit est pleinement à la hauteur pour tous tes besoins. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ni d'avoir peur de manquer de quelque chose. Le Saint-Esprit en toi, la vie nouvelle en toi, te donne cette poussée intérieure, ce désir et ce mandat intérieur, ce besoin intérieur de partager la bonne nouvelle. Un chrétien devrait vivre cela et non pas se dire « Oh là là, il faut que je témoigne aujourd'hui, sinon qu'est-ce qui va m'arriver ?» ou « Je vais perdre mes récompenses. » Si nous sommes sous une charge, sous un fardeau à ce point, nous devons ce matin recevoir quelque chose de nouveau. Et j'espère qu'au travers du message, vous allez le recevoir. Pour motiver les chrétiens à cela, Paul ne va pas seulement prier pour les chrétiens, il ne va pas seulement prêcher et enseigner ces choses, mais il va utiliser une image que j'aimerais illustrer ce matin, une des deux images qui sont données à partir du verset 24 et 25. Et j'aimerais me pencher sur une des images qui est l'image de la course. C'est quand même étonnant que Paul, je ne sais pas s'il était sportif, je me demande même s'il avait du temps pour faire du sport. Mais par contre, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, etc. Donc, il marchait de ville en ville, il était avec, je pense, son équipe, à pied, il était à cheval, il était avec les moyens de transport de l'époque. Donc, il avait quand même une certaine connaissance d'une gym, d'une mise en forme personnelle qui était là tous les jours à cause de ses déplacements. Mais peut-être que vous allez me dire, mais ce matin, mais moi, je n'aime pas le sport. Pourquoi est-ce que Paul vient prendre un exemple où je n'ai rien à voir, je ne suis pas du tout sportif? Peu importe, est-ce que Paul était sportif, l'était-il pas? Peu importe, l'image de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, elle va nous instruire ce matin. Parce que la course, c'était quelque chose de connu à l'époque, puisque les Jeux Olympiques et la course à pied en particulier, les luttes et d'autres disciplines, étaient déjà très à la mode, très connues depuis... Olympe. Les Jeux Olympiques, ça vient d'Olympe, c'est de la Grèce antique. Et c'était quelque chose qui a toujours, au travers des siècles, a toujours attiré du monde, a toujours attiré les foules. C'est un spectacle qui n'a jamais fatigué les gens. C'est un sport qui draine des millions de personnes devant leur écran et qui se déplace pour voir des stades. C'est une compétition, un combat et un enjeu personnel, le sport. Et si Paul compare la vie chrétienne à une course, c'est qu'il y a pas mal de similitudes, justement. Il y a pas mal de choses similaires. Par exemple, quoi ? Eh bien, il faut de la motivation pour courir, il faut de la motivation pour évangéliser, pour marcher avec Dieu, pour courir avec Dieu, pour avancer avec Dieu. Il y a l'effort, le travail, la discipline, la persévérance, le prix à payer, la rigueur, la préparation, la régularité et beaucoup d'autres choses nous montrent que les valeurs sportives pour réussir à arriver à la ligne finale et pour remporter le prix sont les mêmes que pour arriver à gagner la ligne d'arrivée et de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire dans notre cité éternelle. C'est les mêmes valeurs, les mêmes choses. Et Paul va utiliser cette image pour dire justement que, eh bien, annoncer l'évangile, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Même s'il le dit quand même que c'est une charge qui lui est confiée, mais il dit pour trouver la motivation pour ça, la loi, l'obligation ou le sens du devoir ne sont pas suffisants. Sinon, vous allez le faire de la mauvaise manière. Vous allez le faire avec une tête tirée, vous allez le faire parce que, comme le lundi matin, beaucoup de gens rentrent au boulot parce qu'ils sont bien obligés d'être à l'heure au travail. Mais avec quelle mine, hein ? Tandis qu'annoncer l'évangile avec les motivations du sportif qui fait des choses, qui s'impose d'une discipline et qui se prépare avec un but en vue, eh bien, il le fait pour lui, pour la gloire, pour la réussite, pour le prix, pour l'argent, pour toutes sortes de raisons, pour avoir un défi personnel, eh bien, toutes ces choses viennent de lui. Et le Seigneur voudrait nous dire, il faut que ça vienne de l'intérieur de toi et que tu aies en toi les motivations justes qui sont à la hauteur de ce qui est demandé pour gagner la course de la vie chrétienne. Jusque-là, vous n'avez pas encore dit amen, mais ça va venir, je suis sûr. Petit à petit, vous allez dire, mais parler le dimanche matin, alors j'ai eu de la peine à me réveiller, de sport. D'ailleurs, je trouve que je ne suis pas en tenue sportive. J'aurais dû venir en short, mais non, ça, je n'aurais quand même pas osé faire. Regardez, dans les textes que nous avons lus, regardez quand vous regardez le texte encore une fois. Regardez le nombre de fois que le mot « gagner » revient. 5 fois le mot « gagner ». Gagner, courir, sauver, combattre, frapper, ce sont des termes. Ce sont des termes du conquérant. C'est des termes de celui qui a une motivation, celui qui est dynamique. Frères et sœurs, voici mon premier point. Dans la course de la vie chrétienne, dans la marche de la vie chrétienne, il y a une première chose qu'il faut réaliser. Vous devez passer de votre posture statique à une dynamique. Au lieu de dire, Seigneur, je t'appartiens, c'est toi qui fais tout ça pour moi. Dieu se charge des impossibilités humaines quand toi, tu te charges des possibilités humaines. Dieu ne va pas faire à notre place ce que nous avons à faire. Nous devons quitter notre position passive, statique, pour devenir dynamique. Et si tu te mets en route, Dieu sera avec toi. Soyons dynamiques. L'image du sport, c'est exactement ça. Personne n'est statique dans le sport. Peut-être ceux qui font des mots croisés ou je ne sais pas, autre chose. Mais regardez, lorsque vous êtes sur un vélo, lorsque vous êtes statique sur le vélo, est-ce que ça marche ? Bien sûr que non. Vous devez commencer à pédaler et ensuite le guidon commence à servir. Un guidon ne sert à rien si vous êtes juste sur votre vélo et que vous ne bougez pas. Vous devez commencer à pédaler et ensuite Dieu vous dirigera. Commencez quelque part et Dieu vous dirigera. Il y a des personnes qui disent, mais moi, Dieu ne me dirige pas, je sens rien, je vois rien. Mais commence quelque part, avance et Dieu conduira ta vie. Sortez de votre position passive et statique pour devenir dynamique. Ça, c'est le premier point. Martin Luther King a dit une phrase intéressante. Il a dit ceci. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Ce n'est pas n'importe qui a dit ça, Martin Luther King. Quelles que soient tes capacités, si tu peux voler, ben vole. Mais si tu n'as même pas la force pour marcher, ben tu peux avancer, tu peux ramper quelque part. Avance avec la force que tu as. Ce que tu as te suffit pour avancer et faire le premier pas. Amen au nom de Jésus. La gloire, la victoire de la course sera assurée à partir de certaines conditions. J'aimerais juste préciser que si Paul compare la marche chrétienne et l'évangélisation et la réussite de la vie à une course, eh bien, ce n'est pas pour nous dire il faut être actif, il faut stresser, il faut que ça cravache, il faut que ça avance. Ce n'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas s'imposer un stress. La vie chrétienne réussit dans la course parce que nous ne sommes pas dans une course de 100 mètres, dans un sprint de 100 mètres. Nous sommes dans un marathon qui est très long et où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais vous en parler. Et il est absolument indispensable que nous puissions vivre à partir du repos du cœur la course chrétienne. À partir du repos du cœur, à partir de la paix intérieure, je marche avec mon Sauveur. À partir du repos intérieur, de l'assurance qu'il est avec moi et en faisant sa volonté jour après jour dans le repos du cœur, je trouve mon énergie pour marcher et pour courir. L'apôtre Paul va dire, donc dans ce texte, avant de parler de la course, il va parler donc de l'évangélisation, et cela me parle que dans la course de la vie chrétienne, dans l'avancement de la vie chrétienne, les priorités de Dieu doivent rester nos priorités. La prière est importante. La réunion est importante, les cultes sont importants, toutes les activités de l'Église sont importantes, mais rien ne dépasse le projet premier qui est sauver des âmes. Sauver des âmes sauvées, c'est la priorité des priorités. Si nous ne faisions que des réunions de prière, 24 heures sur 24, nous serions peut-être une église de prière, mais nous ne serons pas une église d'obéissance. Nous devons aussi aller dehors et parler de notre foi. Si personne ne prêche, comment vont-ils se convertir? Et quelqu'un a dit, si un évangile qui n'est pas proclamé, qui n'est pas prêché, ce n'est plus une bonne nouvelle. Ce n'est pas de nouvelle, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle dans la mesure où elle est prêchée, dans la mesure où elle est partagée, où on témoigne de cela. Donc nous devons mettre la priorité à la bonne place et garder l'évangélisation à la bonne place. L'apôtre Paul va dire, mais je me suis fait tout à tous pour gagner de toute manière quelques-uns. Je suis juif avec les juifs, je suis païen avec les païens, avec les sans-loi, je suis sans-loi, avec les hors-la-loi, je suis hors-la-loi, avec, non pas tout à fait, mais avec les avec la loi, je suis avec la loi. Il est vraiment adapté à tous pour, sans compromis bien sûr, il va le dire, pour gagner de toute manière quelques-uns. Donc, c'est la priorité. Et c'est pour ça que nous allons maintenant non seulement réfléchir et prier, nous allons prendre comme objectif d'ouvrir une église supplémentaire à Genève. Et à partir de maintenant, c'est une chose qui va être publique, qui va être régulièrement dans les réunions, dans les annonces et dans la communication. Nous voulons ouvrir une nouvelle église de réveil sur la rive gauche du Rhône. Amen. Oui, ça c'était juste une première réaction. Hein. Mais vous savez, je rends toute la gloire à Dieu, mais juste pour dire que parfois on est seul dans les projets. Je ne dis pas que je suis seul dans ce projet, mais j'ai été seul dans pas mal de projets et j'ai vu qu'il faut surtout un temps pour que les gens puissent croire et suivre. Et puis ça marche. Mais il faut un moteur, il faut une équipe de moteurs pour qui croient dans la réalité. Frères et sœurs, si nous obéissons à l'évangile comme les premiers chrétiens le faisaient, nous aurons les mêmes résultats qu'eux. Et je suis sûr que ça va marcher dans la mesure où nous obéissons au Seigneur. Et que nous sommes dans la course et la marche chrétienne, dans l'obéissance et dans les bonnes priorités. Philippiens 3:12 nous dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Voyez-vous, au début d'une course, quand vous êtes au départ, quand j'étais plus jeune, moi j'aimais beaucoup ça, les courses à pied. Vous êtes, quand vous entendez, vous êtes toujours tout de suite en train d'attendre le coup de feu du départ. Vous êtes chargé d'énergie. L'adrénaline est à fond dans votre corps. Vous avez peur de rien. Vous sentez rien. Vous n'avez aucune douleur. Vous avez l'énergie maximale pour démarrer votre sprint ou bien votre course. Donc, d'où vient cette force au départ de notre vie avec le Seigneur? D'où ça vient cette force, cette énergie? L'apôtre Paul dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Lorsque tu es saisi par Jésus, lorsque Jésus t'a saisi, pas seulement que toi tu l'as saisi, mais que lui t'a saisi, que ta personne tout entière te saisit, alors tu es chargé de cette même énergie. L'énergie qui est en Jésus, la force surnaturelle qui est en lui, vient en toi. Tu es un avec lui et tu es chargé de cette énergie pour démarrer de la bonne manière. Comme le Cantique des Cantiques dit, « Mon bien-aimé, où est-il? J'ai cherché partout. Puis finalement, je l'ai trouvé. » Vous lirez ça au chapitre 3 du Cantique des Cantiques. « Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Et quand je l'ai trouvé, je ne l'ai plus lâché. » C'est ça. Il ne faut plus lâcher la main du Seigneur. Il ne te lâche pas et toi, tu ne le lâches pas. Être saisi par le message et par la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un est saisi par Jésus-Christ? Prie par lui. Ah Seigneur, c'est tellement extraordinaire. Comme tu m'as pris, je ne sais pas tout expliquer, mais je sais que ça brûle en moi. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est une réalité merveilleuse que j'ai envie de partager. Maintenant, au départ de votre course, vous êtes donc saisi. Vous avez cette force en vous. Et là, il y a quelque chose qu'il faut encore recevoir. Il faut recevoir dans la course chrétienne qui est un marathon, et qui n'est pas juste le moment de ma conversion, mais qui est chaque jour de ma vie, où je me lève, il me faut quelque chose. C'est une parole de Dieu avant toutes les autres paroles. Comment commencez-vous votre journée? Quels sont ceux qui ne prennent pas leur téléphone au lever du lit? Ah, quand même, 2-3 personnes, mais tout le reste alors. Nous avons l'habitude, et c'est ça le danger, c'est que nous recevons les autres paroles, les nouvelles, les messages, etc., tout ce qui vient vers nous spontanément, qui est déjà arrivé durant la nuit sur votre téléphone et que vous allez ouvrir, vous recevez les autres messages avant de recevoir la parole de Dieu. Si la parole de Dieu précède les autres messages, si elle est importante, si la parole de Dieu vient avant, vous serez préparé pour votre journée. Mais si les autres messages prennent la place et que vous commencez la parole de Dieu quelque part dans le bus ou la fin de journée, vous n'aurez pas cette énergie qui va vous maintenir en course, dans la bonne forme olympique. Il faut cette parole avant le départ. Est-ce que vous avez, certains ont vu peut-être le film qui n'est pas récent, qui s'appelle Chariot de feu. C'est un champion extraordinaire, Eric Liddell, qui fut champion olympique au 800 mètres ou 400 mètres, je ne sais plus, je crois que c'est 400 mètres, en 1924 à Paris. Et c'était un chrétien écossais, un chrétien qui est devenu missionnaire en Chine par après. Eric Liddell était chrétien, donc il est dans l'équipe sélectionnée pour l'Angleterre, pour représenter l'Angleterre, et il est fort dans le sprint du 100 mètres. Et voilà que le sprint et la finale du sprint du 100 mètres se fera un dimanche. Et à l'époque, Eric Liddell est très clair dans sa façon de craindre Dieu et d'honorer la parole de Dieu. Lui a dit « Moi, je ne cours pas le dimanche ». Et donc, comme il n'est pas au départ, il est disqualifié. Lui qui était un des meilleurs, il ne court pas le dimanche, mais le dimanche, on l'entendra prêcher à l'église écossaise à Paris. Et alors, il se rabat sur le 200 mètres et le 400 mètres. Donc, la même journée, il va faire le 200 mètres. Et pour finir, il va faire un 400 mètres qui n'est pas du tout sa discipline. Et les gens disent, mais il a déjà couru ce matin ou hier le 200 mètres. Ne vous faites pas de soucis, lui ne va pas faire un score formidable. Et là, dans le film, et c'est vraiment la réalité, je vérifie encore, il y a quelqu'un qui descend dans l'arène, dans le stade, et juste avant son départ, lui glisse un mot dans sa main. Eric Liddell va juste regarder ce mot et se préparer à son départ. Et c'était dessus, Dieu honore ceux qui l'honorent. Avant de partir, il est chargé d'une parole de Dieu qu'on lui confie juste au moment du départ. Et lui qui n'était pas habitué à courir cette distance, il va, à cause de cette faveur de Dieu sur sa vie, il va gagner. Alléluia! Quel exemple extraordinaire. Frères et sœurs, n'oubliez pas cela. Avant le départ de votre journée, la parole de Dieu doit précéder tous les autres messages. Troisièmement, la priorité à la bonne place, la force qui vient parce que je suis saisi par Jésus. La parole de Dieu avant les autres paroles. Philippiens 3, toujours, mais le verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Nous ne pouvons pas avancer si nous sommes chargés de toutes sortes de choses. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Ne pensez-vous pas qu'il avait aussi des charges intérieures durant son ministère? Oui, il en avait, parce que lui avait persécuté les chrétiens. Il a fait du mal au corps de Christ. Il a fait des grands péchés. Et il va d'ailleurs en parler, même jusque dans ses dernières lettres. Il dit « Je suis le moindre de tous les apôtres. Je suis le moindre parce que j'ai persécuté l'Église. » Et pourtant, il dit « Laissons en arrière les choses du passé, oubliant ce qui est en arrière. » Personne ne peut bien conduire si vous regardez tout le temps dans le rétroviseur. Vous ne pouvez pas avancer correctement si vous êtes tout le temps en train de regarder le rétroviseur, ce qui est derrière. Si l'apôtre Paul a pu oublier ce qu'il a fait à cause du pardon reçu, croyez-vous que c'est trop difficile d'oublier son passé? Si la parole de Dieu le dit, c'est que c'est possible, mes bien-aimés. Si la parole le dit, c'est que c'est possible. Tu peux oublier et faire en sorte que ton passé ne te soit pas l'handicap pour avancer dans ta course. Est-ce que quelqu'un ce matin veut oublier son passé? Écoutez, il y a encore un autre texte qui est très important, Hébreux 12, versets 1 à 4. Hébreux 12, 1 à 4. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons, mettons de côté, chassons loin de nous, prenons autorité sur ces choses qui veulent nous piéger et nous alourdir la marche avec des fardeaux inutiles. Éliminons les bagages inutiles. Et voyez-vous, ce qui est vraiment important pour un coureur, c'est qu'il ne doit pas être distrait. Et le danger aujourd'hui, c'est que notre course est parsemée avec des haies à droite et à gauche de distractions. Hein, on peut s'arrêter, puis regarder, arrêter, puis perdre son temps. Au lieu d'avancer, on est distrait continuellement. L'apôtre veut dire, si tu es distrait, les distractions vont manger ton énergie et ton temps. Combien de serviteurs de Dieu sont déjà tombés dans le péché, et je le dis avec crainte, tombés dans le péché parce qu'on a perdu son temps dans des trucs qui sont aujourd'hui tellement faciles à avoir. Tel pasteur voulant arrondir un tout petit peu ses fins de mois et trouver que c'était pas suffisant son salaire, et il dit, mais je vais faire des paris sur Internet, ça prend pas beaucoup de temps, je vais juste jouer à des jeux qu'on m'a suggéré, ou bien qui sont venus tout seuls sur mon PC. Il a commencé à faire des paris, mes amis, il a tout perdu, il a perdu son ministère. Combien de pasteurs, de serviteurs de Dieu et de bons chrétiens ont perdu leur temps et se sont ruinés le moral, leur vie spirituelle, et ont ruiné leur ministère par tout ce qu'ils ont surfé sur Internet, à commencer par la pornographie. Frères et sœurs, la course, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est écrit il y a 2000 ans. Et l'apôtre ne savait pas qu'aujourd'hui on avait tout ça. Mais ça a toujours existé, les distractions en route, afin de perdre son temps pour ne pas arriver. Oubliant ce qui est en arrière, c'est possible. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas seulement être piégés par des péchés qui sont là et qui vous guettent, mais vous pouvez être aussi alourdis dans votre marche à cause de blessures du passé, à cause de situations ou de personnes qui vous ont blessé. Et à cause de ça, vous êtes devenu très prudent et vous dites, moi, je ne fais plus, moi, ça. Votre course est ralentie, vous êtes en train de marcher et même d'arrêter de marcher. Parce que vous avez dit, mais moi, ça suffit, j'ai reçu des coups et je n'avance plus dans ce sens. Et Dieu nous dit, mon ami, arrête de regarder à droite et à gauche. Arrête de regarder les gens qui peut-être te font du mal ou qui t'ont fait du mal et qui ne sont pas bien avec toi. Regarde dans ma direction. Regarde ce que je suis en train de faire. Regarde ailleurs. Change ton regard de direction. Il y a quelques semaines, j'ai prêché sur cette femme courbée qui regardait que la poussière par terre. Cesse de regarder la poussière sur les chaussures des autres. Regarde en avant et regarde la ligne d'arrivée. Il faut rester concentré. Il faut rester concentré. La vie chrétienne exige une discipline. Frères et sœurs, ce mot doit retentir comme étant quelque chose de positif dans nos vies. La vie chrétienne exige une discipline. C'est une discipline indispensable. La prière, la parole, la régularité dans la vie de l'Église, une discipline dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre corps, dans notre appétit, etc. Aux frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, etc., qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et puis, il faut toujours avoir ce but devant soi. Alléluia. Ce but, environné d'une si grande nuée de témoins, nous avançons, nous courons dans la carrière qui nous est ouverte. Autrefois, je faisais la course de l'escalade, maintenant je ne la fais plus. C'est dommage, hein? Ah là là. Mais quand je la faisais, je me souviens qu'arrive un moment où au début, vous êtes plein d'adrénaline, vous n'avez pas peur, ça marche, c'est léger, comme une gazelle, vous avancez. Puis arrive, les pointes sur le côté. Ah, vous avez mal, et vous n'entendez plus vos jambes, vous n'avez plus de souffle. Et la montée, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je n'arrête pas? C'est ridicule. Et puis vous avez des gens qui sont autour de vous. Et les gens qui te crient, allez, avance, on applaudit, allez papy, avance. Et vous savez ce qui est vrai, c'est que vous avancez à cause de la foule, parce que vous ne voulez pas être ridicule et d'arrêter juste là quand même. Mais en même temps, ça vous pousse en avant. Les frères et sœurs, la nuée de témoins terrestres et célestes sont là en train de vous encourager, de vous applaudir. Vas-y, avance, avance. Donc j'ai arrêté la course de l'escalade pour aller à la salle de gym. J'y vais chaque semaine et quand je me trouve sur une machine qui s'appelle l'ellipse, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça, vous êtes dessus puis vous faites de la marche. Alors je me dis, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui comme temps? Alors je mets mon temps, voilà, on va mettre, je ne sais pas, 16 minutes, 17 minutes. Puis vous réglez la force, la résistance. Puis vous êtes rempli d'adrénaline, vous avancez. Et vous y allez, vous y allez. Et comme il faut tenir 17 minutes, il faut mesurer sa force. Il ne faut pas être essoufflé au bout de 4 minutes. Ça, c'est le danger. Donc, vous réglez. Et puis, vous arrivez à 15 minutes. Vous êtes en train de transpirer. Je transpire et je regarde mon compteur de la force. Et je ne veux pas diminuer. Je garde mon rythme et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, ça ne sert à rien. Et arrive la 16e minute, il me reste plus qu'une minute. Et je me dis, mais c'est... Arrête avant l'heure, tu es fatigué. Personne ne te regarde, personne ne te filme. Il n'y a pas de spectacle. Vous n'êtes pas dans une arène en train de faire quelque chose de particulier. Et à votre avis, qu'est-ce que je fais entre la 15e et la 16e minute? Je prie pas, non. Hein? Vous l'avez dit! J'accélère. Mais c'est juste incroyable. Alors que je suis au plus fort de la fatigue, que j'ai tout sauf envie de continuer, je vais accélérer, c'est vrai. Et à chaque fois, je donne le dernier coup pour arriver à un bon score jusqu'à la fin. Accélération. Voici l'image que ça m'inspire. Frères et sœurs, dans quel temps vivons-nous? Nous vivons dans les temps de la fin. Les temps de la fin. C'est la 16e minute qui s'annonce. C'est le dernier tour du marathonien qui en a fait déjà je ne sais pas combien. C'est son 42e kilomètre qui est le plus dur, le plus difficile. Il est au bout de ses ressources. Et les foules, le stade, il est plein de gens qui disent « Allez, continue !» Et d'autres crient « Accélère !»« Plus vite !» Parce que, frères et sœurs, le retour de Jésus est proche. Alléluia! Le retour de Jésus est proche. Et il est temps, même pour les plus fatigués parmi nous, d'accélérer un peu. Il est juste de continuer la marche, de forcer, parce que bientôt, le Seigneur va m'attraper à la ligne d'arrivée et il va me dire, bon et fidèle serviteur, bienvenue à la maison, la joie de Dieu sera vraiment ta récompense. La récompense t'attendra. Alléluia! Le Seigneur vient bientôt. Il est bon que quelques-uns entendent ce matin. Plus vite. Avance. Reste pas statique, mais avance. Et même si tu es fatigué, je vais te donner cette adrénaline que tu as besoin maintenant par la puissance du Saint-Esprit pour que tu avances encore plus vite parce que Jésus revient bientôt. Bientôt viendra le jour et l'heure où plus personne ne pourra travailler. Aller plus vite veut dire racheter le temps. Enlever certaines charges. Si tu veux enlever encore un pull, enlève-le pour avancer un peu plus vite, pour t'alléger de choses qui te prennent ta force, ton énergie et ton temps. Combien il est important d'arriver au bout. L'apôtre Paul disait, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est sa dernière lettre, la deuxième à Timothée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Tu ne recevras pas ta récompense ici-bas. Tu la recevras là-haut. Amen. Elle t'attend déjà. Mais pour cela, il faut que tu arrives jusqu'au bout, à la ligne d'arrivée, et que vers la fin, je te dis, automatiquement et spontanément, parce que tu es motivé, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, parce que tu es porté par une force invisible et invincible, il te porte en avant, tu vas accélérer. Comme un avion, un Boeing, qui va accélérer. Et juste avant le décollage, c'est là qu'il est le plus rapide. Et il va atterrir dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Je vais terminer avec un exemple. Les marathoniens vous diront qu'il y a des moments, même entraînés, il y a un moment qui s'appelle le mur, un moment où vraiment c'est incroyablement dur, vous n'avez plus de jambes, plus de souffle, vous n'avez plus d'énergie, Et c'est là que ça se passe dans le mental. Le mental du chrétien doit être au point. C'est sa capacité de décider, de choisir. La vie chrétienne, c'est un choix. Dieu t'a choisi, mais toi, tu dois choisir un certain nombre de choses pour avancer. Je choisis d'avancer, je choisis de ne pas me laisser ralentir par quoi que ce soit. Je choisis d'être témoin, je choisis d'obéir au Seigneur, je choisis avec lui. Tu n'es pas seul dans cette solitude du marathonien. Je suis avec toi, te dit le Seigneur. Et puis, mon dernier point, eh bien, c'est la vidéo qui va passer maintenant. Vous allez juste regarder cette vidéo qui va durer 4 minutes. Et l'exemple d'un coureur qui a été sélectionné pour un 400 mètres et qui est tombé à un moment donné. Et si quelqu'un est tombé ce matin, fatigué de cette marche, de ce marathon qui est trop dur pour vous, le Seigneur va vous donner son aide aujourd'hui. Regardons maintenant cette vidéo et je prendrai juste la parole pour la prière finale. Son nom est Derek Redmond. Un jeune homme était favori pour le 400 mètres à Barcelone aux Jeux Olympiques d'été. Toutefois, un grand découragement est arrivé à 250 mètres avant la fin. Déchirure musculaire l'oblige à stopper. Il est tombé par terre dans la douleur. Alors que les brancardiers arrivent pour le rejoindre, il savait qu'il avait quelque chose à choisir. Malgré la douleur, il s'est levé et a commencé à sautiller le long de sa ligne. Tout à coup, un homme solide se fraye un chemin dans la foule. Il rejette la sécurité. Cet homme, c'était son père. « Tu n'as pas besoin de faire cela, » dit le fils en pleurs. « Si... » « Je vais le faire, » déclare le père. « Alors bon, » dit le père, « nous allons terminer cette course ensemble. » Le père mit son bras autour du fils pour l'aider à sautiller au travers de sa piste. Courtement avant la fin, le père a libéré son fils et le fils a lui-même continué seul la ligne pour traverser la ligne d'arrivée. Derek Redmond n'a peut-être pas terminé premier, mais il a terminé sa course. Malgré la douleur, malgré les larmes, il était déterminé de donner tout ce qu'il avait. Motivé par un amour si fort, l'amour du Père qui l'a pris là où il est tombé. Pourquoi l'a-t-il fait ? A-t-il quitté les stands pour venir au secours de son fils ? C'était la douleur de son enfant qui l'a touché. Ainsi, le Père est venu pour l'aider. Alléluia. Amen.